France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Soyez gentils avec l'agent recenseur qui passera peut-être chez vous à partir d'aujourd'hui. Il vous expliquera ce qu'il vient faire. Il vous expliquera que vos données ne seront pas distribuées partout et à tout le monde. Il viendra avec un questionnaire assez court qui ne prend que quelques instants. Mais si vous avez des doutes et des questions sur cet exercice annuel de l'INSEE, vous êtes à la bonne adresse. Nos invités sont là pour vous raconter, pour apaiser peut-être certaines de vos craintes ou de vos doutes et vous dire exactement, non seulement comment les recenseurs procèdent, mais surtout à quoi ça sert. Le recensement, c'est un moment important dans notre vie en collectivité. Avez-vous déjà imaginé comment on détermine des ouvertures ou de fermetures de classe, l'urgence de l'ouverture d'une crèche municipale, par exemple? Comment on détermine des logements sociaux en fonction des tailles de famille? Est-ce que ce chiffre évolue beaucoup? Comment on accepte ou non l'installation d'une pharmacie? Comment on sait orienter les politiques de mobilité? Est-ce qu'il faut rajouter des bus et dans quelle direction? Tout ça, c'est grâce au recensement dont, et de ce que nous en savons, 350 textes de loi dépendent des résultats du recensement. Avec des questions qui changent ou qui s'affinent au fil des temps, cette année on parle beaucoup de celle-ci. Quel est le lieu de naissance de vos parents? Vous savez que la France est fermée aux statistiques ethniques. Est-ce qu'on met un pied dans la porte ici? Qu'est-ce qu'on attend de cette question sur nos villes petites ou moyennes? On a aussi rajouté une question sur le handicap. Êtes-vous limité depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé dans les activités que les gens font habituellement? Et puis la question du télétravail, tiens, qui modifie la mobilité et peut-être aussi les types d'habitat. Bref, 67 millions de Français, et moi, et vous, et nous, c'est le recensement. Et c'est aussi le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Marc, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir à l'équipe de France Inter, au téléphone sonne, ainsi qu'à vos invités. J'ai une question un peu paradoxale, un peu, je sais pas trop.
Allez-y,
posez la question. Surtout, vous avez, dans votre riche introduction, vous avez donné déjà beaucoup de réponses sur la validité, sur le pourquoi du recensement. Mais malgré tout, je sais que jusqu'à présent, c'est par des échantillons, du moins dans les grandes villes, c'est par des échantillons de quartier qu'on extrapole et qu'on a une idée comme ça de la population et de son portrait. Mais malgré tout, je me dis pourquoi, à quoi ça sert encore, puisque à l'heure actuelle, on a déjà une idée de la démographie par les naissances, les décès, et puis également par les demandes au niveau médical. Et aussi, donc, je me dis, en plus de ça, il y a des administrations, beaucoup d'administrations qui nous forcent à avoir des dossiers numériques. Et je sais que, bien sûr, la protection de la vie privée impose qu'il n'y ait pas de croisement de fait dessus, mais malgré tout, ça peut se faire indirectement. Donc,
à quoi bon? C'est ça que vous dites, Marc, en fait. À quoi bon continuer à recenser la bonne vieille méthode?
Du fait de la numérisation galopante de la société qui permet d'avoir une idée assez précise quand même de la population.
On vous a entendu, Marc, merci beaucoup. Vous êtes nombreux autour de cette question-là, j'en ai une sous les yeux. D'ailleurs, c'est Céline qui dit pourquoi le recensement existe dans la mesure où les impôts peuvent répertorier de façon plus sûre la population. Je m'étonne de cette pratique qui est ancienne et, ajoute-t-elle, non fiable. Donc on va essayer de voir jusqu'à quel point elle l'est, ancienne sûrement. Non fiable, c'est une autre affaire. Bonsoir Muriel Bardet.
Bonsoir.
Vous êtes chef du département de la démographie à l'INSEE. Anthony Guéroux est avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de Saint-Aubin-Routot, c'est en Seine-Maritime. Vous êtes un représentant de l'AMF au Conseil National de l'Information Statistique. Il y a aussi Laurence Fortin qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
La vice-présidente développement économique et aménagement du territoire de la région Bretagne, c'est vous. Un mot d'abord, Muriel Bardet, sur ce que nous disent nos interlocuteurs. Comment ça se fait qu'on fait encore ça à l'ancienne, alors que finalement, c'est vrai qu'on a laissé nos noms un peu partout dans un tas de fichiers, dans un tas d'endroits?
Alors, l'objectif du recensement, c'est de compter tout le monde, mais c'est aussi de compter tout le monde au bon endroit. Et par exemple, il y a des personnes qu'on ne va pas forcément retrouver dans les fichiers administratifs. Dans le recensement, on va faire aussi le recensement des sans-abri, par exemple. Et il y a aussi des personnes, c'est revenu souvent dans vos auditeurs, la question des données des impôts.
Bien sûr.
Bah, typiquement,
mais tout le monde ne paye pas d'impôts.
Tout le monde ne paye pas d'impôts, mais ils sont quand même présents dans le fichier des impôts. Mais typiquement, les étudiants Souvent, ils sont sur la déclaration fiscale de leurs parents, mais ils n'habitent plus chez leurs parents. Donc pour les communes qui ont une grosse population étudiante, elles seraient désavantagées quelque part si on ne faisait pas un recensement. Et puis à l'inverse, il y a des personnes qui peuvent être présentes dans les impôts parce qu'elles ont une résidence en France, mais qui ne vont pas habiter en France de manière habituelle. Et là, il ne faudra pas les compter.
Un étudiant, il est compté toujours là où il habite, il n'est pas compté jamais dans le foyer fiscal où il est. Puisque comme vous le disiez, effectivement, un étudiant, non seulement il dépend toujours de ses parents, puis surtout il bouge beaucoup d'une année sur l'autre.
Alors,
en tout cas, il peut.
Un étudiant majeur, il est compté dans la ville où il fait ses études et il est compté, enfin il y a deux concepts de population, il est aussi compté quelque part dans la ville de ses parents.
Anthony Guéroux, vous qui êtes maire, votre ville a 1972 habitants, c'est ça ?
Alors, 1992
cette année. Ah bah, ça change tout. Et bien justement, en fait. Et alors, en fait, parce que c'est vrai qu'on va beaucoup parler probablement des grandes villes au cours de cette émission, et d'ailleurs il a raison notre auditeur, hein, pour les grandes villes, on fait des panels en quelque sorte pour pouvoir ensuite y travailler. Je me demandais, pour une ville de 1992 habitants, jusqu'à quel point le recensement était particulièrement important. On se dit chez vous qu'on est parfois à deux habitants près, en fait, pour une pharmacie, une école ou je ne sais quoi d'autre.
Et oui, tout à fait. On a donc c'est un gros travail pour les communes lorsqu'ils sont font l'objet du recensement avec l'INSEE, en collaboration avec l'INSEE. Mais ça nous permet plusieurs points importants. Mm-hmm. Par exemple, les calculs de dotation de l'État, participation financière de l'État, qui sont calculés par rapport au nombre de la population. Eh bien, si on calcule mal la population, on peut avoir un petit peu moins d'argent par rapport aux dotations normales. Les dotations de solidarité intercommunale aussi sont comptées de cette façon-là. Mais il y en a aussi tout ce qui est usage sur le nombre d'élus à chaque
élection. Oui, c'est ce que j'allais dire, le nombre de conseillers municipaux.
Oui, ça joue. Et on est dans la période des vœux et j'en parlais tout à l'heure justement avec certains maires qui justement avaient peur de passer de 500 ou à 1000 habitants et changer le nombre de conseillers. On passait à 15 conseillers ou jusqu'à 19 comme nous. Donc ça change un petit peu pour les scrutins. Et puis le mode de scrutin aussi change. À 1000 habitants, on est en plurinominal, mais on n'est pas en scrutin de liste. Le nombre d'élus aussi dans les communautés comme nous, à la communauté urbaine, c'est par rapport au nombre d'habitants. Et puis, des services comme la pharmacie, il faut avoir 2000 habitants. À 1992, je ne peux pas avoir de pharmacie, mais dans 8 habitants, je pourrais peut-être demander à avoir une pharmacie dans mon village.
Et chez vous, d'ailleurs, est-ce qu'on a tendance à monter en chiffres dans la population ? Au contraire, est-ce que vous regardez descendre le nombre de concitoyens ou pas ?
Où on monte progressivement pour deux raisons. Je pense qu'on est à côté d'une grande ville et donc ce qui nous permet d'avoir attractivité.
Mais c'est ça, on vient habiter chez vous, c'est ça l'idée.
Et on a un centre pénitentiaire, le centre pénitentiaire du Havre qui est dans ma commune, donc okay. ça peut varier un petit peu d'une année à l'autre.
Ah ben j'espère qu'on n'a pas perdu Monsieur Guéroux. Vous m'entendez, Monsieur Guéroux ? Eh bien, il m'entend plus, mais c'est pas grave, on le récupérera de toute façon, quoi qu'il arrive. Je voudrais qu'on finisse ce tour de table avec vous, Laurence Fortin, qui est vice-présidente du développement économique et de l'aménagement du territoire, là, en l'occurrence, en région Bretagne, donc on est sur une autre échelle. Est-ce qu'on attend les chiffres du recensement avec impatience quand on a le poste qui est le vôtre ? Ce sont des chiffres qui vous aident réellement à travailler ?
Oui, ce sont des éléments importants pour nous. Alors, peut-être vous dire que pour nous, c'est plutôt, ça nous aide à travailler sur le temps long. Ouais. Si je prends en termes d'image, je dirais que pour naviguer, il faut un cap et une boussole. Et pour nous, pour mettre notre projet politique, il nous faut bien sûr un projet politique, une ambition. Mais derrière, il nous faut aussi des données pour voir où on en est et comment ça avance. Donc, on a plusieurs politiques qui dépendent finalement de ces données-là et sur lesquelles on travaille en permanence.
Et comme les politiques les plus importantes, par exemple, qui sont directement liées au recensement et qui peuvent parler aux gens qui nous écoutent, ça peut être quoi ?
Je prendrais par exemple la politique d'aménagement des territoires. On accompagne justement les maires, les communautés de communes sur les territoires avec des dotations par habitant. On utilise les données INSEE dans un indicateur, sept données qui sont utilisées pour accompagner plus les territoires les plus fragiles, par exemple. Donc ça veut dire qu'on va avoir une dotation par habitant qui va être sur un territoire de 166 euros par exemple, tandis que sur un autre, elle va être de 35 euros par habitant. Donc là, on voit très clairement qu'il y a un impact en fonction de la population, mais pas seulement, mais aussi toutes les données INSEE.
Vous allez revenir évidemment, Laurence Fortin, il y a plein de petites questions qui tombent. Muriel Barlet, avant qu'on rejoigne d'ailleurs un agent recenseur, je vais vous en soumettre quelques-unes. On a Rama sur WhatsApp qui dit « Les questions concernant la santé m'ont choqué, je les ai donc inventées ». Enfin, j'ai donc inventé. Est-ce que vous avez souvent ce genre de remarques ?
Alors, c'est la première fois, en fait, qu'il y a dans le recensement une question qui concerne la santé. Donc, c'est une question qui permet de repérer les personnes qui sont en situation de handicap. Hein. Et cette question est facultative. Le recensement étant déclaratif.
Mais alors, on y viendra d'ailleurs, on comprend bien ce que ça veut dire, est-ce que ça peut changer quand on demande le lieu de naissance des parents et à quoi ça peut vous servir. On voit bien dans les questions nouvelles à quoi peut servir la question sur le télétravail, qui est évidemment une question passionnante. Alors, ça vous aide en quoi de pouvoir rajouter la question handicapée? Qu'est-ce que ça vous aide en quoi?
Eh bien, en fait, ça permet d'avoir une information. En fait, le gros avantage du recensement par rapport aux autres enquêtes que peuvent mener l'INSEE, c'est que le recensement, il va permettre d'avoir l'information sur des niveaux territoriaux fins, alors que les autres enquêtes, on n'aura que des résultats nationaux. Et donc, pour les politiques publiques locales, c'est très important d'avoir cette information à un niveau fin. C'est aussi important pour des questions d'études et d'analyse, pour éclairer par exemple des questions sur les inégalités territoriales de santé.
Bonjour, le téléphone sonne. Le recensement est-il aussi d'essayer de compter les illégaux et les sans-papiers ?
Alors le recensement compte tout le monde. Pour compter au recensement, il faut résider habituellement sur le territoire, c'est-à-dire être là depuis au moins un an ou avoir l'intention d'y rester un an. Et on ne se préoccupe absolument pas de la situation administrative des gens ou de leur nationalité, donc on compte tout le monde.
Voilà, bonsoir Thomas Chrétien.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes agent recenseur à Rennes et on tenait à vous parler parce qu'il y a plein de questions qui sont en train de venir et qui nous disent, mais comment est-ce qu'on peut être certain que les agents du recensement qui font du porte-à-porte ne sont pas des escrocs? Ça c'est Cyril qui nous dit ça. On a un autre qui nous dit à peu près la même chose, mais comment s'assurer de l'identité, de l'authenticité des enquêteurs qui se présentent au domicile? Comment vous faites vous, Thomas?
C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Alors là, vraiment, tout est bien préparé. En tout cas, moi, je travaille donc pour la ville de Rennes. Donc, en amont, en fait, on fait une tournée de reconnaissance où on met une lettre de la mairie directement dans les dans les boîtes aux lettres, en fait, des résidents. Donc déjà, ils sont prévenus au moins une semaine avant le début de la collecte que la résidence va être amenée à être recensée. En plus de ça, on va mettre des petites affichettes, donc voilà, qui donnent aussi vraiment encore plus la mesure finalement de cette enquête qui va être mise en place. Et en dernier lieu, on a une carte, en fait, une carte d'agent de recenseur qui est quand même notre passe, avec un cachet de la mairie et avec vraiment marqué République française. Et concrètement, c'est ça qui fait la différence, parce que comme vous le dites, on peut être confronté à ça, des immeubles où il y a du démarchage, et donc cette carte, c'est celle-là qui fait foi.
Est-ce que vous êtes en général bien accueilli? Est-ce que précisément, peut-être parce que vous avez prévenu de votre arrivée, qu'il y a eu un courrier, les gens quasiment vous attendent et sont sympas avec vous, ou est-ce que c'est compliqué?
Eh ben, écoutez, Fabienne, en tout cas, moi, je suis ravi de pouvoir témoigner de ça. Je crois que c'est la grande beauté de cette mission. C'est qu'on pourrait supposer, c'est souvent ce que mes amis ou des gens à qui je dis que je fais cette mission, ils me le demandent. Comment t'es reçu? Ah, tu dois te faire, c'est des fois, tu dois
te faire. On doit te claquer la porte-nez, ouais. Une paire de fois.
Et voilà, exactement. Eh ben, pas du tout. C'est ça, toute la beauté et l'envers du décor. C'est que vraiment la très grande majorité, et c'est pas pour dire, même 98% des gens vous accueillent très bien, sont extrêmement sympathiques, et vraiment, ça se passe toujours super bien. Ça nécessite du sourire, de la pédagogie, certaines fois, mais vraiment, tout le temps, la majorité se passe toujours très
J'imagine,
bien.
J'imagine, Thomas, qu'il y a beaucoup de questions sur la crainte du fichage, en fait, et qu'il faut que vous soyez rassurant là-dessus.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est une des possibilités, et c'est pour ça que, bonsoir, vous m'entendez en plus à ce moment-là, Fabienne, je suis en plein dans une cage d'escalier, parce que je suis en pleine tournée.
Ah bah dites-moi.
Vous voyez, on est au cœur de l'action. Alors, pour la question du fichage, évidemment que là-dedans, ce qui va être important, c'est toute cette logique que j'entendais une des précédentes intervenantes, c'est parler de la notion du déclaratif. Mm-hmm. En fait, c'est déclaratif. Même si, voilà, moi, je vais toujours reparler de la confidentialité de l'INSEE, évidemment, qui sont tenus au secret statistique. Donc, finalement, que les noms sont pas si important, c'est juste pour éviter des doublons. Après, tout est anonymisé. Ça, les gens l'entendent très très bien. Et même s'il y avait de la réticence, moi je leur dis que là-dedans, c'est déclaratif. S'ils ne veulent pas mettre leur vrai nom, il y a aucun souci. Ça nous est arrivé d'avoir des noms qui sont un peu originaux. On a eu du Jimi Hendrix, c'est arrivé. Mais parce que en fait, c'est pour ça, on va tenter de faire de la pédagogie. Mais tout le monde, et en tout cas moi, c'est le propos en tout cas qui est le plus important quand je m'adresse aux gens. Évidemment, c'est un devoir civique, mais où l'individu, en tout cas où chaque personne est respectée aussi dans son choix.
Mais ça,
voilà, on donne de l'information.
C'est important ce que vous dites, Thomas, parce que effectivement, si on donne un faux nom, l'important c'est de savoir combien il y a de personnes dans le foyer, en fait, s'il y a un adulte, deux adultes, un enfant, deux enfants, etc. Le reste est moins important. Alors c'est vrai que c'est mieux si on vous raconte pas du pipeau tout le temps, mais
exactement. Et l'idée, c'est de la mise en confiance. Ça veut dire que vraiment là-dedans aussi, laisser de la liberté. En fait, c'est tout bête, hein. Mais la notion de la du déclaratif, je l'observe tout le temps, hein, depuis plusieurs années où je fais le recensement. En fait, tout de suite, ça détend. Si on vient amener que vous êtes en fait profondément aussi la libre de répondre, en fait, parce que il y aura pas de fichage. Et surtout, moi, je le précise bien, s'il y avait du fichage, j'aurais pas fait ce type de mission, évidemment. C'est vraiment la continuité, le lien qu'il y a avec l'INSEE, la confidentialité qui est aussi pour moi hyper important et que j'ai envie de proposer et de partager avec tout le monde. Leurs données sont protégées, en fait, et n'auront pas, en tout cas, ne sont pas utilisées.
Et
ça, c'est extrêmement important.
Ouais. Et puis, quelques questions sont facultatives. Il commence à y avoir des questions, donc on y viendra, mais la question sur le lieu de naissance des parents, la question sur le handicap, ça, c'est des questions facultatives. Et ça détend aussi les gens, parfois, non? Il y a des questions auxquelles ils ne veulent pas répondre, certaines auxquelles ils ne veulent pas répondre. Cette fameuse question, Thomas, sur les origines de la famille, vous avez eu des réticences ou pas du tout?
Eh ben, écoutez, pour l'instant, parce que vous savez, on va pas mal, là, on va privilégier aujourd'hui l'INSEE, je pense que vous abordez ça depuis le début de l'émission, l'INSEE va privilégier aujourd'hui le recensement par Internet. Donc finalement, j'ai pas tout le déroulé encore, et j'ai fait que quelques enquêtes en présentiel, même si l'INSEE, d'ailleurs, ne va pas le privilégier pour éviter des biais dans les interviews, dans la manière dont les questions peuvent être posées. Mais, de ce que j'ai pu voir pour l'instant, en tout cas, ça pose pas tant de problèmes, mais pareil, je vais l'ajouter dans, à chaque fois quand je vais parler aussi du déroulé du questionnaire, le pourquoi en fait, et là vous avez répondu, c'est super, ça m'a donné aussi de la matière, pour moi en fait rendre pédagogique, comprendre pourquoi on utilise et comment sont utilisées ces informations, c'est extrêmement important, on a besoin de pédagogie.
Bah écoutez Thomas, j'aimerais bien être recensé par vous, parce que vous êtes très sympa donc du coup, je vous offrirai un café, si vous passiez chez moi, je vous offrirai même un café, dites-moi.
Vous faites partie, mais c'est génial.
Mais j'habite pas à Rennes, donc ça va être compliqué. Merci mille fois, on vous laisse dans votre cage d'escalier, on vous remercie beaucoup. Forcément elle vient, la question martiale, dit ceci: j'ai été recensé à plusieurs reprises aux États-Unis, où on vous demande si vous êtes caucasien, asiatique, espagnol ou autre, etc. Et je ne vois pas le souci. Et c'est plutôt à vous que j'ai envie de la poser, cette question, Anthony Guéroux, parce que l'idée d'ajouter également ce genre de questions-là, ça vous incombe aussi, vous qui êtes l'un des représentants de l'AMF et qui est aussi au Conseil National Informatique et Statistique. Comment on discute, et surtout quand on a votre rôle à vous, comment on discute et on dit « bon, il faut qu'on fasse rentrer cette question », comment ça se passe?
Alors, notre côté, c'était pas forcément une demande de l'AMF.
Ouais, hein, non, mais c'est venu sur votre table, si je puis dire.
C'est ça, oui. Donc, tout à fait, avec c'était des besoins principalement pour des chercheurs ou des statisticiens qui permettaient de demander ça. C'est une crainte qu'on peut comprendre, mais effectivement, comme disait votre intervenant tout à l'heure, on n'est pas dans l'ethnie anglo-saxonne, on est plutôt comme dans des grandes démocraties, hein, quelque chose d'assez soft malgré tout. Ça pose des questions effectivement politiquement, puisque ça peut et ça doit faire peur d'ailleurs, mais par rapport à la demande elle-même, en fait les données sont anonymisées, ça reste des données qui sont protégées, même les données cartographiées sont quand même très à des échelles qui nous permettent pas d'identifier une personne, donc ça reste quand même assez stable. Nous, ce qu'on peut y voir comme point d'intérêt, c'est de pouvoir avoir des vrais chiffres plutôt que des croyances sur les origines des gens, même si en termes de politique d'aménagement d'un village, ça ne nous sert pas à grand chose.
Oui, c'est ça, j'allais vous demander si vous, dans votre pratique de maire à 1792 habitants, ça vous servait. J'imagine bien que effectivement c'est plus pour les grosses agglomérations, les zones qui sont proches des bassins d'emploi ou des choses comme ça, j'imagine, non, monsieur Guéroux?
Je je pense que c'est oui pour ces zones-là, pour les zones d'emploi, mais aussi pour au niveau national en fait, pour comprendre en fait l'évolution de la population en général, mais pas effectivement dans une petite mairie comme la nôtre, la politique publique du village ne s'arrête pas là.
Pourquoi on l'a ajouté, Muriel Barlet, cette question-là ? Parce que ça, les statisticiens se prennent beaucoup la tête autour de ce genre de questions. On n'est pas du tout, effectivement, dans un pays anglo-saxon où on vous demande de cocher même votre couleur, mais il y a au moins 10 cases possibles, etc. Les origines des parents, tout ça est beaucoup plus intrusif. Là, est-ce qu'on commence à peine ? Est-ce que c'est l'entrée de quelque chose ou pas ?
En fait, donc, cette question sur le lieu de naissance des parents, déjà, c'est le département de naissance pour les parents qui sont nés en France et c'est le pays de naissance pour les parents qui sont nés à l'étranger. Cette question, elle existe déjà dans de nombreuses enquêtes de la statistique publique, donc ce n'est pas le début de quelque chose. Et ce qui est beaucoup remonté, parce qu'il y a eu énormément de concertations avec des chercheurs, des élus locaux, des syndicats, etc. Et ce qui est beaucoup remonté, c'est que, en fait, l'information dont on disposait aujourd'hui, elle ne permettait pas de faire des études qui étaient localisées. Et quand on va étudier les questions de ségrégation, d'inégalité, savoir si c'est les populations dont les parents sont nés à l'étranger sont désavantagées, on va le faire sur des marchés de l'emploi, sur des marchés du logement, et ça, c'est des marchés qui sont quand même relativement locaux. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cette information à un niveau fin, mais pas trop quand même, parce que pour revenir sur un point, donc la confidentialité des données a été beaucoup soulignée, mais ce que je voudrais rajouter, c'est que cette donnée, elle ne sera pas diffusée en dessous de territoires qui font moins de 5000 habitants. Ouais. Donc on ne va pas diffuser pour cette donnée pour toutes les communes. Pour protéger encore plus la confidentialité, il y a aussi une limite sur sa diffusion.
Il y a une question bientôt qui nous attend là-dessus, mais avant qu'elle arrive, Laurence Fortin, dans la série des autres questions, parce que j'imagine que celle dont on parlait à l'instant vous concerne de loin. En revanche, je trouve assez intéressant qu'on ait fait rentrer le télétravail à l'intérieur de la statistique, à l'intérieur du recensement et de l'INSEE cette année. Vous qui êtes vice-présidente du développement économique, de l'aménagement du territoire d'une région, est-ce que vous étiez demandeur d'abord, et est-ce que c'est un chiffre que vous regardez avec beaucoup d'attention, et peut-être même que vous regardez évoluer d'ailleurs d'un recensement à l'autre?
Oui, effectivement, enfin, ce sont des éléments qui nous permettent de comprendre les tendances et donc de faciliter, on va dire, la planification. Les régions ont le soin d'élaborer notamment des schémas d'aménagement et de rendre des terrains constructibles à l'échelle d'une région et de répartir ce foncier sur des territoires. On va bien sûr regarder comment va évoluer la population en nombre, comment vont évoluer les emplois, quelles seront les mobilités. Tous ces éléments sont des données importantes pour nous. Elles nous permettent en fait d'avoir vraiment une donnée sur laquelle on peut s'appuyer et donc essayer de se fixer des ambitions à partir de ça.
Et y compris effectivement les mobilités, quelle mobilité, comment, à quelle fréquence, etc. C'est aussi tout ça en fait qui peut changer sur une donnée statistique. Est-ce que vous avez le sentiment, Laurence Fortin, que et au fond les chiffres de l'INSEE peut-être vont vous le confirmer avec cette question, que tout a changé en fait, que beaucoup de choses ont changé dans votre partie à vous, dans le développement économique de votre région, quand les gens changent leur manière de travailler?
Non, mais ce qu'on peut dire, nous, c'est que c'est vraiment plutôt les grosses tendances qu'on regarde.
Bien sûr.
Et qu'à partir de ces grosses tendances, on établit des scénarios. Et à partir de ces scénarios, on peut voir comment on peut mieux accompagner les territoires. Comment sont constitués les foyers, quelle est la mobilité, quelle est la moyenne d'âge, les personnes âgées privilégiant plus la marche à pied, par exemple, les jeunes, la mobilité de transport en commun. Donc ça nous permet en fait d'adapter sur les territoires, les offres que nous faisons.
Je le disais, il y a 350 diverses choses, textes de loi et autres, Muriel Barlet, qui dépendent de ce que dit le recensement et de ce que disent ces statistiques de l'INSEE. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui vous attendent quand même très très précisément, non ?
Alors la publication des populations donc, qui a lieu en chaque fin d'année, c'est vrai que c'est une statistique. Chaque chiffre, les 35 000 chiffres des 35 000 communes, on sait qu'ils sont, ils sont scrutés parce que pour les élus locaux, en particulier pour les maires, c'est vraiment très important. Derrière, c'est leur dotation, c'est la vie municipale, c'est les services qui vont pouvoir ouvrir ou pas. Donc, c'est une publication qui est très attendue chaque année.
On est en train de parler recensement dans le téléphone sonne avec Muriel Barlet, qui est la chef du département de la démographie à l'INSEE, avec Anthony Guérou, qui est maire de Saint-Aubin-Routou en Seine-Maritime, avec Florence Fortin, qui est vice-présidente développement économique et aménagement du territoire de la région Bretagne. Et avec vous, Ariane, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question.
On vous écoute.
Je m'interroge parce que j'ai habité en Allemagne et dès lors qu'on déménage, on doit aller se déclarer à la mairie. Ça s'appelle l'Anmeldung et ça ressemble sensiblement au recensement. La seule chose, c'est que c'est des données en temps réel et je ne comprends pas pourquoi on fait un recensement ponctuellement uniquement en France.
Pourquoi Marielle Barguet?
Alors,
pourquoi on ne demanderait pas, comme en Allemagne, à chacun d'aller se présenter à sa mairie?
Les pays sont ce qu'on appelle des pays à registre, donc c'est-à-dire où effectivement, à chaque fois qu'on déménage, on va s'inscrire à la mairie dans un registre. Ces registres, ils ont souvent une finalité autre que le recensement. En fait, ils servent à la vie municipale. C'est indispensable d'être inscrit au registre pour inscrire ses enfants à l'école, par exemple. J'imagine que ça sert probablement pour les impôts, etc. Et c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est que les pays qui ont un registre ne font plus de recensement comme nous, on le fait. Mais comme nous, en France, nous n'avons pas de registre de population, on continue à faire un recensement traditionnel.
Et vous avez l'impression d'être plus fiable, d'ailleurs, que le sont nos voisins, ou pas, ceux qui ont des registres ?
C'est différent. En fait, ce que va surtout apporter un recensement, c'est que déjà, on fait la distinction entre administratif et statistique. Donc effectivement, nous, on va vraiment recenser tout le monde, y compris les personnes qui ne sont pas connues des services administratifs. Et l'autre intérêt qu'a notre méthode, c'est qu'on accompagne le recensement d'un questionnaire, on en a beaucoup parlé, et donc du coup le recensement est très riche. On va aussi avoir des informations sur les personnes, sur leur logement.
On a plein de remarques qui nous arrivent sur WhatsApp ou sur l'appli France Inter. Je veux juste dire, nous dit Catherine, que je fais beaucoup de généalogie et les recensements sont une source formidable d'informations. Je ne sais plus les détails de publication, mais j'ai appris des tas d'infos sur mes ancêtres notamment. On a Stéphanie qui a une question extrêmement précise. Un de mes enfants vit en colocation avec trois autres jeunes. Qui répond à l'agent recenseur? Les trois, mon capitaine, ou pas?
Oui, tout le monde, évidemment. Tous les occupants du logement doivent répondre.
On a Fabrice qui dit « Le recenseur est passé chez moi, il m'a uniquement posé un formulaire à remplir sur Internet et m'a pas proposé un sondage classique avec un papier et un stylo. »
Ah bah c'est normal, en 2025, il y a trois quarts des personnes qui répondent au recensement par Internet. Et donc,
je pense que la confusion, c'est donc si le recenseur passe, du coup, est-ce qu'on le remplit avec lui ou est-ce qu'il nous donne un papier ou est-ce qu'on le remplit sur le net? Enfin, je pense que c'est ça le sens de la question,
Fabrice.
Avec des
codes et on répond en ligne au moment le plus opportun pour nous.
Et pour peut nous aider aussi à répondre aux questions qui peuvent nous être difficiles, au moins c'est le moment d'avoir quelqu'un pour nous aider. Aglaé est sur l'application et nous dit « Qu'en est-il du recensement des personnes qui n'habitent pas des logements classiques ? Les hôtels, les centres d'hébergement d'urgence, les gens qui vivent dans des squats, les gens qui vivent dans les EHPAD, comment on fait pour ces groupes de population ?»
Alors, il y a différents protocoles pour le recensement. Donc, pour les personnes qui vont vivre en EHPAD, en centre pénitentiaire, c'est ce qu'on appelle le recensement des communautés et ce sera fait par des agents de l'INSEE. Pour les personnes qui sont sans abri ou qui vivent dans des habitations mobiles, elles seront recensées les deux premiers jours de la collecte, puisque par définition, elles n'ont pas un lieu fixe d'habitation. Donc, pour ne pas les compter deux fois, on les compte tout de suite. Et puis, on a même un protocole pour les bateliers, dans les choses peu anecdotiques qu'on
ne doit pas en rester beaucoup, mais ma foi, pourquoi pas. Quel est l'usage de l'intelligence artificielle dans la pratique de l'INSEE? Est-ce que, puisque forcément dans les grandes villes, vous n'intervenez... C'est quel pourcentage d'ailleurs? Parce que vous ne pouvez pas faire du porte-à-porte.
C'est 40% sur un cycle de 5 ans.
40% sur un cycle de 5 ans. Est-ce qu'à un moment, et dans le recensement, intervient déjà l'intelligence artificielle à l'INSEE ou pas? Et
Alors oui, on utilise l'intelligence artificielle, mais pas forcément là où on l'attend. On l'utilise pour coder, en fait. Dans le recensement, vous allez rentrer votre profession, vous allez rentrer l'activité de votre entreprise et vous allez le rentrer en clair. Et nous, on va le coder dans une nomenclature. Et pour ça, on va utiliser l'intelligence artificielle. Et on commence à en utiliser un peu pour exploiter des images satellites pour nous aider. Parce que avant le recensement, avant le passage de l'agent recenseur, il y a tout un travail de repérage des logements. Et dans des territoires comme Mayotte ou en Guyane, on commence à utiliser des images satellites exploitées par des intelligences artificielles pour cibler en fait là où est-ce qu'on va aller faire des enquêtes de terrain, là où il y a des nouvelles constructions.
A fortiori, cette année à Mayotte par exemple, où les choses sont beaucoup plus compliquées ou pas ?
Alors à Mayotte, cette
année... Ou alors on ne recense pas cette année à Mayotte
Enfin, en tout cas, tout de suite, les conditions ne sont absolument pas réunies pour faire une enquête de terrain.
Comment être sûr, nous demande Laurent, de la fiabilité du recensement et quelle est la marge d'erreur entre les menteurs et ceux qui ne répondent pas à l'enquête ?
Alors, d'abord, 96% des gens répondent à l'enquête. Et pour les gens qui ne répondent pas, on récupère l'information les agents recenseurs ont pour mission aussi de récupérer le nombre d'habitants auprès du voisinage. Et vraiment, quand on n'a aucune information, l'INSEE va faire une imputation. Donc, en fait, on est sûr qu'on arrive vraiment à comptabiliser tout le monde. Et le sondage amène une toute petite imprécision. Et à l'échelle de la population nationale, ça va être plus ou moins 30 000 habitants sur les 68 millions. Donc on a vraiment un protocole qui est très précis.
Et ceux qui mentent, on ne peut pas savoir ceux qui mentent, évidemment, mais ça fait partie de la marge d'erreur, et puis tant pis ou
Alors, il y a quand même des contrôles qui sont effectués, et si on avait des récompenses qui étaient complètement aberrantes, on s'en apercevrait.
On a un auditeur qui était là déjà tout à l'heure et qui nous posait la question de savoir, mais enfin, ça sert à quoi de recenser désormais, puisqu'il y a plein de données diverses et variées. Il revient à la charge, et peut-être que c'est pour vous, Anthony Guéru, que vous allez pouvoir l'aider. Il revient à la charge, il dit, mais je ne suis pas convaincu par les réponses des intervenants. À quoi servent les maires ? À quoi servent les institutions, comme les impôts ? À quoi servent les écoles, les hôpitaux ? Bref, tous ces services régaliens. Donc, pourquoi le faire toujours au porte-à-porte ? Anthony Guéru, vous qui êtes maire, qu'est-ce qu'on répond à notre auditeur ?
Eh ben je vais le rassurer, en fait, on n'a pas de base de données de nos habitants, en fait. Ça peut paraître fou, mais on n'a pas la liste de nos habitants, on a la liste électorale, on a la liste des enfants qui mangent à la cantine, on a la liste peut-être des personnes âgées pour le colis des anciens, mais on n'a pas la liste de nos habitants. Et donc, sur tous mes habitants, à part faire du porte-à-porte pour les connaître un à un, je ne peux pas le savoir, effectivement, parce c'est pas comme en Allemagne, quand une personne vient, habite dans mon village, il vient pas... généralement, ils viennent se présenter pour nous dire bonjour, mais en fait, il n'y a pas de formulaire. Et donc, voilà. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir ces indicateurs de l'INSEE qui arrivent tous les ans pour qu'on puisse travailler sur nos politiques publiques.
Et d'avoir effectivement cette photo-là. Comment les SDF sont-ils recensés, nous demande Anna sur WhatsApp.
Alors, ils sont recensés les deux premiers jours de la collecte. Pour les petites communes, c'est simple, ils sont recensés l'année où la petite commune est recensée. Et pour les communes de plus de 10 000 habitants, qui font une enquête de recensement chaque année, ils vont être recensés une année sur cinq. Donc la dernière fois, c'était en 2022, et la prochaine fois, ce sera en 2027.
Les chiffres du recensement pourraient-ils aider à l'obligation de médecins dans les déserts médicaux, comme ça se fait pour les pharmacies, par exemple ? Est-ce que c'est aussi, Anthony Guéru, c'est aussi vers vous que je vais me tourner là-dessus, est-ce que ça sert aussi à un moment à se dire, un recensement, il va falloir qu'on fasse entrer une politique là-dedans, en fait, une vraie politique, et donc peut-être une loi même derrière. Est-ce que c'est une démonstration par A plus B, notamment, de déserts médicaux, par exemple ?
Oui, tout à fait. Effectivement, pour les déserts médicaux, ça nous sert pour pouvoir prouver aussi qu'on a une population, soit qui vieillit, soit qui rajeunit, mais en tout cas un nombre d'une clientèle potentielle, de patients potentiels pour des futurs médecins, et donc de donner envie aux gens de venir. Et puis, d'avoir ces statistiques nous permet aussi, par rapport au nombre d'habitants et puis le nombre de médecins, d'avoir un petit peu des prorata, des pourcentage de médecins par habitant, et de pouvoir se dire, oui, il faut qu'on mette en place une politique publique plus agressive sur la création de maisons de santé, sur la création de maisons de pluridisciplinaires de santé également, c'est d'autres outils, peut-être essayer de forcer, essayer d'aider à créer des cabines de télémédecine pour pouvoir le faire. Mais effectivement, si on n'a pas de chiffres de population, on ne peut pas dire qu'il nous manque des professionnels.
Et c'est là aussi que vous pouvez entrer dans la conversation, j'imagine, Laurence Fortin, vous, en aménagement du territoire d'une région, sur effectivement les populations et les statistiques par rapport aux hôpitaux, au nombre d'hôpitaux, à ceux qui sont censés disparaître, les lieux, les maternités, etc. Là aussi, vous avez, vous, évidemment, un regard là-dessus qui est extrêmement aigu, j'imagine.
Oui, alors peut-être que sur les hôpitaux, c'est peut-être pas le chiffre qu'on regarde le plus, mais je reprendrai les lycées.
Ouais,
quelles sont les perspectives
sur la région, c'est clair, les lycées.
Ouais, les perspectives d'évolution en nombre de scolaires, comment ça va évoluer, quelle sera la pyramide des âges. Ça, bien sûr, alimente nos réflexions, évite des décisions douloureuses, nous permet d'adapter la carte scolaire. On voit bien que ce sont des données importantes pour nous, pour piloter notre politique lycée, par exemple.
On a une auditrice qui est très au courant, c'est pour vous, Muriel Barlet, qui nous dit « Bonsoir, est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi consiste l'enquête famille ?» qui est concomitante, si je puis dire. On profite du recensement pour l'enquête famille.
Effectivement, tous les 10 à 15 ans, on adosse ce qu'on appelle l'enquête famille.
Cette enquête est géniale sur qui sont les familles, comment elles vivent, quelles sont les nouvelles formes de famille, etc.
Effectivement, le recensement, c'est vraiment une photo. Vous allez avoir l'image de votre famille, mais de la partie de votre famille qui vit avec vous. Alors que avec l'enquête famille, on va avoir une image beaucoup plus complète sur, par exemple, on va poser aussi des questions sur les enfants qui n'habitent pas avec vous, sur vos parents, à quelle fréquence vous les voyez, vos frères et sœurs, etc. Donc ça donne une image beaucoup plus complète des familles et sur un temps long.
Il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait des sans-papiers, nous demandent beaucoup d'auditeurs.
Eh bien, on les compte. Alors, on va les compter dans la collecte des sans-abri. On va les compter dans les centres d'hébergement.
Sans-abri et sans-papier, c'est pas pareil. Les sans-abri peuvent, voilà, exactement, peuvent avoir des papiers. Les sans-papiers, par définition, n'en ont pas.
En tout cas, on les compte. À aucun moment, dans une enquête de recensement, on va vous demander vos papiers. Et dans des territoires où les personnes qui sont en situation régulière sont nombreuses, comme à Mayotte, par exemple, ils seront aussi compter dans les statistiques du recensement.
Juste pour terminer, écoutez ce message qui nous vient de Suisse et qui dit « Pour complanter la réponse sur la question de l'auditrice qui habite en Allemagne, ici en Suisse, nous devons nous déclarer au contrôle de l'habitant en cas de déménagement. Ceci n'empêche pas le recensement national. J'y ai répondu hier soir, nous dit-il. Les questions posées sont d'une toute autre nature. Les régions, les langues parlées, les compositions du logement, les origines, les réponses sont utilisées pour établir des données soft, nous dit notre auditeur, par géographie. Du reste, les personnes recensées ne sont pas en échantillonnage. » C'est marrant parce que nous, c'est très basique, nos questions, si je puis dire. Religion, il n'en est pas question. Langue parlée, on n'y va pas non plus, etc. On est très basique, en fait, nous, hein, dans nos questionnements.
Alors, la question sur les langues, elle est dans l'enquête famille, mais une des questions qui est dans le recensement français et qui est dans peu de recensements et qui est moins basique, c'est la question du mode de transport. Mm-hmm. Quel mode de transport vous utilisez pour aller au travail? Et ça, c'est typiquement une information qu'on n'aura jamais dans d'autres données administratives.
Voilà, et au fil du temps, d'autres questions qui s'inventent parce que nos modes de vie changent et c'est ça qui est passionnant. Merci vraiment à tous les trois pour votre participation. Merci à tous pour vos nombreuses questions.